il va rejeter l'interprétation dualiste, morale dualiste des manichéens, mais il va se retrouver avec l'interprétation dualiste aussi des platoniciens, mais qui se situe à un autre niveau. C'est plus le bien et le mal, mais c'est le corporel et l'incorporel. Avec la tentation platonicienne de plaquer sur cette distinction, la distinction manichéenne du bien et du mal. Ce qui est corporel, c'est pas bien, et ce qui est incorporel, c'est bien. Donc il faut se dépouiller du corporel. Alors là encore, ça le gêne un peu. Hein. Donc il va s'interroger sur le beau et l'utile, hein, c'est le titre d'un de ses opuscules. Le beau, dit-il, à la différence de l'utile, a sa fin en lui-même et il est purement spirituel. Il n'est pas convaincu par la réduction manichéenne du beau à la lumière corporelle. Et il sera donc déçu par leur évêque Faustus qu'il va consulter. D'ailleurs, il sera aussi déçu par ses élèves médiocres, parce qu'il était professeur aussi. Finalement, il devient sceptique. Et c'est au cours de ce passage au scepticisme qu'il va faire la découverte à Rome, où il est également déçu par ses élèves, parce qu'il enseignait d'abord à Carthage, donc il avait des élèves médiocres. Et puis, il en a marre, il part à Rome, et en 383, et là il est aussi déçu par ses élèves, il profite de vacances d'été pour obtenir un poste à Milan. Donc il part à Milan en 384. Il va commencer à... il va être attiré par la prédication de saint Ambroise. Donc, tout en étant dans cette période... Tu dois partir
pour... Oui, je vais train pour...
son train.
Ah, c'est ton train.
Il y a grève et puis travaux.
Ah oui, c'est ça.
C'est rive droite
Oui, c'est
vrai. Il commence à... se souvenant qu'il est catéchumène, du coup, il va écouter les prédications que Ambroise tient aux catéchumènes. Il est d'abord séduit, évidemment, en bon recteur, bon professeur, l'éloquence de saint Ambroise, donc par la forme, puis peu à peu par le contenu de ses enseignements. Et notamment, ce qu'il avait tellement bloqué dans sa lecture de la Bible, par-delà la langue, c'était aussi son incapacité à comprendre l'Ancien Testament, qui lui paraissait terriblement en dessous des sages qu'il avait pu lire dans la tradition philosophique. Là, il va comprendre avec saint Ambroise comment on peut lire chrétiennement l'Ancien Testament. Donc, il découvre que le christianisme n'est pas si puéril. Alors, sa maman le rejoint en 385 à Milan pour promouvoir sa carrière. Donc, en renvoyant la concubine, en organisant un mariage, un des projets de fiançailles avec une fillette de famille distinguée. Augustin se laisse un peu faire. Le prêtre Simplicianus, qui avait déjà initié saint Ambroise au moment de sa conversion, va lui faire connaître l'œuvre du recteur Marius Victorinus. Vous vous souvenez, on en avait parlé un peu, qui s'était converti, lui, en 355, qui avait été tout de suite un apologiste du christianisme. Et c'est là qu'il va découvrir le platonisme, avec sa conception spirituelle immatérielle du bien, qui immédiatement va le séduire en répondant à sa question sur le mal. Du coup, pour lui, Augustin comprend que le mal n'est qu'une absence de bien, donc que le mal n'a pas de substance, à la différence de ce que prétendaient les manichéens qui étaient du coup obligés d'imaginer une dualité dans la divinité, un dieu mauvais et un dieu bon. Il va se tourner vers saint Paul, où il trouve que la doctrine de la grâce correspond bien à ce qu'il a compris du platonisme. Il découvre alors qu'il n'a pas à choisir entre la raison et la foi, mais que l'une et l'autre sont complémentaires. Il dira par exemple dans un sermon bien plus tard, sermon 43.9, « Intellige ut credas, crede ut intelligas hein, »« Comprends pour croire et crois pour comprendre ». C'est là où aussi il comprend que finalement, si la raison est l'œuvre du philosophe et correspond à la dignité de l'esprit humain, la foi n'en est pas moins aussi naturelle, parce que c'est là qu'il se rend compte que la plupart des choses qu'il a reçues de bonnes dans sa vie, il les a reçues par l'éducation de ses parents, de sa mère en particulier, et par quel biais ? Par la confiance, autrement dit, par finalement la prise de conscience qu'il n'avait pas à se défendre de ce qui lui était donné, parce que ça lui était donné par amour en fait. Et que puisque c'était donné, il avait le sentiment que c'était pour lui faire du bien, donc il accueillait ce qui lui était confié, et c'est après qu'il découvrait que c'était juste. Donc finalement, la foi achemine vers aussi la connaissance de la vérité. Et dit ce qui est vrai finalement dans l'éducation dont on peut faire l'expérience chacun dans notre vie, c'est aussi vrai finalement de toutes les connaissances quasiment qu'on reçoit, parce qu'on les reçoit de la bienveillance des uns des autres. L'ingénieur, on croit ce que nous dit l'ingénieur, on croit ce que nous dit le capitaine du bateau sur une traversée, parce qu'on n'a pas de crainte à avoir qu'il nous trompe, parce que ce n'est pas son intérêt. Voilà, il y a l'idée de la sociabilité humaine. L'homme est plus... Et donc Augustin va se rendre compte que finalement la confiance, qu'on appelle la foi en matière religieuse, c'est une réalité qui est universelle et qui est la condition même du savoir. On peut savoir parce qu'on a déjà reçu par confiance, et ensuite on découvre la vérité de ce qu'on sait, quitte à aller plus loin quand on se spécialise dans un domaine. À ce moment-là comprendre que la voie des philosophes, qui est la voie royale dans l'Antiquité grecque, et la voie qui était réservée aux populaires, qui était la voie de la foi, de la voie du culte, la voie des superstitions, etc., en fait, dans le christianisme, ne font qu'un. Et il va prendre conscience aussi de la sacramentalité, de la vérité, que la vérité va se dire à travers des images, à travers des cultes, un culte, etc., à travers les sacrements. Et c'est ça qui va le retenir sur la voie du platonisme. Parce qu'il aurait pu se dire, purifions-nous de tout le sensible pour ne retenir que l'intelligible. Mais non, il va comprendre que l'intelligible se donne dans le sensible, à travers justement le fait que la foi utilise des images, à travers le fait que le Dieu est obligé d'adapter aussi son discours à des esprits qui sont limités et qu'il est obligé d'utiliser. Et du coup, il va comprendre pourquoi il y a un Ancien Testament, pourquoi il y a des paraboles, pourquoi il y a tout ce qui lui déplaisait au début, parce qu'insuffisamment philosophique, il va se rendre compte que c'est l'admirable pédagogie divine et qu'en fait, c'est l'œuvre de la sagesse. Donc la vraie sagesse, c'est pas se débarrasser de tout le sensible pour planer dans l'intelligible, mais que la sagesse de Dieu, c'était précisément d'adapter cet intelligible pur à ce que des êtres immergés dans la matière peuvent en saisir. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment le... Et Augustin dira le tournant, ça a été son platonisme. C'est par Platon qu'il a, enfin le platonisme qu'il a connu, qu'il a pu Et comme c'était quand même un esprit supérieurement intelligent, il a pu devenir platonicien sans cesser d'être chrétien, où il a même, son platonisme l'a aidé à être chrétien, en fait.
Justinien.
Oui.
Non, Justin. Saint-Justin.
Justin, oui.
C'est lui aussi qui était platonicien.
Oui, 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 comme beaucoup, hein, en fait. Alors, à son aimé, mais alors, c'est là aussi qu'il va se rendre compte que même si le sensible ne doit pas être, comment dire, rejeté absolument, il faut quand même mettre en ordre sa vie. Et il faut mettre sa vie en accord avec sa pensée. Et alors, à son ami Alipius, il dit soudain, après avoir découvert l'exemple de saint Antoine et de saint Antoine du désert, oui, et l'exemple de hauts fonctionnaires convertis à Trèves, il semblerait que c'était justement Jérôme et un de ses amis qui s'appelait Bonoz, qui avaient tout quitté pour partir au désert de Syrie. Voilà. Il dit, des gens sans savoir se dressent, ils s'emparent du ciel, et nous, avec notre savoir sans cœur, voici que nous nous vautrons dans la chair et dans le sang. Il dit ça dans les Confessions. Car jusqu'à présent, il dira-t-il un petit peu plus loin, il était comme un dormeur qui diffère l'inévitable lever. Il savait bien qu'il fallait se lever, mais... Allez, 5 minutes de plus, etc. Donc il savait bien qu'il devait se convertir, mais en fait, il ne voulait pas trop, parce que visiblement, il avait une vie affective assez exigeante. Alors, comme il est aussi très sentimental, probablement comme saint Jérôme, il va dans le jardin pleurer, hein, on pleure beaucoup dans l'Antiquité, il entend une voix d'enfant crier dans une maison voisine, « Tolle legge, tolle legge ». Alors, sur le coup, il croit que c'est un jeu, mais il dit, mais non, je ne me souviens aucune cantine enfantine de ce type. Alors, finalement, il y voit un signe de Dieu, et il prend la lettre de Paul, qu'il avait sous la main. Donc, s'il les avait sous la main, ça veut dire quand même qu'il devait bien gagner sa vie. Hein. Et il tombe sur Romains 13:13, qui dit, « Revêtez-vous du Christ, et gardez-vous des plaisirs déréglés de la chair. » Commentaire. Aussitôt la phrase finie, les ténèbres du monde se dissipèrent toutes comme sous une lumière de sécurité infuse en mon cœur. Et soudain, il décide de changer de vie. C'était en août 386. Tolle legge. Prends Elie. Prends Elie. Alors il se retire avec sa mère, son fils... et ses amis à Cassisiacum, près du lac de Côme, pour se livrer à un otium cultivé. Vous voyez, comme Jérôme, comme les autres, donc comme Cassiodore, on vit dans une grande villa agréable avec des serviteurs, et puis on se livre à la lecture, à la discussion. On boit un spritz le soir. Alors il va publier. C'est là qu'il va publier son Contra Academicos, où il va pas brûler ce qu'il a adoré, mais il va s'opposer. Vous savez que dans le platonisme, il y a aussi une tendance sceptique, et donc il va s'en prendre aux platoniciens sceptiques. Il va publier aussi son De Beata Vita sur la recherche de Dieu, la vie bienheureuse. Le De Ordine, non pas sur les ordres, mais sur la question de l'ordre du monde, et en particulier la question du mal et de la providence. Et puis c'est Soliloquia, soliloque, comme on dit, hein, enfin ses discours adressés à lui-même, sur la quête de Dieu, sur l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, ça a été pour lui une découverte platonicienne. Hein. Et vers la fin des vacances, il démissionne de sa charge de professeur et s'inscrit avec son fils et Alipius, son cher ami, parmi les candidats au baptême, où il va, alors là, fréquenter encore de plus près Donc vous voyez, du lac de Côme, il vient à Milan. Fréquenté de plus près Saint-Ambroise. Et là, il sera baptisé. Pâques 387. Donc vous voyez, les années 385, 386, 387 sont les années charnières de la vie de Saint-Augustin. Et là, il pense retourner en Afrique. Donc vous voyez, tous ces grands désirs de vie brillante, comme haut fonctionnaire, comme professeur, tout ça, il les abandonne pour retourner en Afrique, vivre, fonder une communauté contemplative, et il rejoint le port d'Ostie avec sa maman, et sa maman, Sainte Monique, tombe malade, elle a la fièvre, et puis là, justement, dans les confessions, il raconte ses conversations spirituelles avant sa mort. Elle meurt le 13 novembre 387. Donc vous voyez, la conversion d'Augustin, c'est essentiellement une conversion morale précédée par une conversion intellectuelle. Lui, il correspond bien à la première, à l'horizon du premier dimanche après l'Épiphanie. Donnez-nous la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Hein, visiblement, la force de l'accomplir, je reste encore 5 minutes au lit. Hein. Visiblement, pas tout seul. Hein. Et donc après, ben voilà, il va mettre sa vie en ordre. Alors on verra la suite de son histoire, mais la fois prochaine, on ira des textes. Alors je vais vous les faire passer, comme ça, ça m'évite de les reprendre.
Ah oui, c'est vrai.